C'est qui ?
Elle s'appelle Marie. J'ai trouvé son portefeuille dans la rue hier soir.
Une jolie fille comme ça, ça s'appelle, hein ?
Allô ?
Oui, en fait, j'ai trouvé le portefeuille de Marie Andrieux dans la rue hier soir. J'ai cherché son numéro dans les pages blanches. Vous auriez son numéro de portable ?
Je vous remercie d'être venu jusqu'ici.
Faites attention à Marie.
Je vous conseille de ne pas chercher à la voir.
Pardon ?
Elle est dangereuse.
Je me remémorais à de nombreuses reprises le moment précis où je l'ai découverte, sans savoir jusqu'où cette expédition allait me mener. Tu vas pas me croire. J'ai suivi Marie sur l'île de Groix.
Votre ami est en danger. Et bam !
Ouh. Oh putain.
En direction de l'île avec l'ancien ami de la fille que t'as suivi.
Tiens, ça bouge.
Vous êtes un type très bizarre. Vous n'êtes pas immédiatement sympathique.
Tu penses souvent à la mort, toi ?
Non. C'est quoi ce truc ? On dirait un mélange entre ce chanteur bizarre et Raël.
C'est fascinant.
Trois sur cette île. Marie, dans les environs.
Quelle sera l'issue de ce voyage ?
Alors j'en ai mis une dans la chambre, une dans la cuisine, une dans le salon, tu vois, comme dans Paranormal Activity.
Je vais pas sauter.
Mais bien sûr que non, sinon tu serais pas là.
Alors je suis très mauvais pour raconter le synopsis d'un film que j'ai réalisé, mais ce que je pourrais dire, voilà, c'est l'histoire de trois personnages. Marie, une jeune femme... Qui pour gagner sa vie et tourne dans des publicités ou des clips, et c'est son parcours d'abord, et c'est le parcours aussi à peu près à égalité d'Antoine, qui est un écrivain qui a connu un succès il y a plusieurs années avec un premier roman et qui est en quête de son prochain roman. Et le troisième personnage, c'est Siméon, qui est un journaliste au chômage et qui sera le premier à rencontrer Marie. Et très vite, dans le film, on s'en rendra compte que Marie a eu une histoire aussi avec cet Antoine, le romancier. Et cette collision en fait, qui va se créer entre ces trois personnages, va les mener de Paris à une île en Bretagne qui s'appelle l'île de Groix, où ils vivront une espèce de moment magique. Voilà. Ce scénario, je l'ai écrit à Paris, mais j'ai écrit plusieurs scénarios sur l'île de Groix. En fait. C'est un endroit où j'aime aller, où je vais souvent, et qui était pour moi un décor possible. Et pour un film à venir, et ce film-là dès que les personnages m'ont amené sur un chemin qui partait de la gare Montparnasse, il n'y a pas eu trop d'hésitation de poursuivre ce chemin jusqu'à la Bretagne et l'île de Groix. À chaque fois que je commence un film, je me refuse pas à faire appel à des souvenirs, des choses qui sont assez intimes. Donc il y en a beaucoup dans Marie et le naufragé. Après, ces choses que j'ai pu observer chez les autres, ou qui sont des choses que j'ai vécues, elles sont tout le temps détournées pour créer de la fiction. Donc en fait, c'est vrai que je dis que c'est les personnages qui ont fabriqué un peu cette histoire. Après, dans chacun des personnages, il y a un peu de moi, de moi et de mon observation des autres, en fait. Voilà. Mais il y a quelque chose de réel de se dire que j'avais besoin de connaître la vie de ces personnages. C'est pour ça que dans le film, il y a des moments très, très particuliers où les personnages s'adressent au spectateur, au futur spectateur du film, face caméra, pour raconter leur vie de leur naissance au temps de l'âge qu'ils ont dans le film. Donc il y a quelque chose où forcément le passé de ces personnages créer aussi leur présent, en fait, et le présent du film qui se joue sur quelques jours est lié à leur histoire personnelle et à leur parcours individuel. Les personnages s'adressent au spectateur, vraiment il y a une espèce de lien d'intimité qui se crée et qui est un peu la règle sine qua non pour partir à l'aventure de ce film. Donc c'est, voilà, si ce lien n'existe pas, le film ne peut pas marcher. Donc j'ai besoin de son regard et de que le spectateur accepte cette règle.
Oui, il y a pas mal de ressemblances avec Deux automnes, trois hivers, ou des correspondances. Est-ce que par la suite vous aller vers autre chose.
C'est, enfin, j'ai l'impression que voilà, il y a une nécessité de faire des films à des moments. Là, la nécessité, c'était aussi de continuer à raconter l'histoire de gens, de personnages qui me ressemblent, qui vivent à l'époque dans laquelle on vit. Et qui se débrouille avec ça en fait. Et ça me semble un sujet, en tout cas en ce moment, assez important et assez inépuisable en fait. Il y a une part dans mes films qui est un rapport au réel, qui même si ce sont absolument pas des films naturalistes, c'est-à-dire que c'est pas des films, c'est des comportements qui sont assez originaux et qui sortent des sentiers battus. Enfin, moi, j'aime montrer des personnages qui luttent contre un quotidien morne et qui le font de manière joyeuse et ludique. Enfin, c'est une comédie aussi, Marie et les naufragés. C'était important de continuer sur cette veine. Après, le prochain film traitera aussi de personnages qui ont 30 ans, mais se situera dans des territoires totalement différent, puisqu'il sera une histoire qui se déroulera au Groenland, en fait. Marie et les naufragés, c'est une comédie, je tiens absolument à ça, mais c'est pas une comédie dans le sens... Enfin, je pense qu'une comédie à 100% qui use du rire, en fait, c'est pas forcément le plus intéressant, et c'est pas forcément le plus sincère. En fait, je pense qu'une comédie a le droit de dériver vers des moments plus mélancoliques et plus dramatiques, et il y a un terme que j'aime beaucoup utilisé par les Américains, enfin dans la comédie indépendante, qui parle de dramédie. Voilà, et je pense que moi j'aime beaucoup ce terme parce qu'il est, c'est un mot très barbare, mais qui en même temps résume assez bien ce qui m'intéresse dans le cinéma contemporain. Voilà, cette idée de dramédie.
Donc Monsieur Sébastien Bête-Bédé, c'est quelqu'un que personnellement j'avais découvert avec Deux automnes, trois hivers, donc en 2013, et Marie les naufragés, qui sortira le 13 avril, est un film que je trouve très différent, même s'il y a quand même quelques récurrences. Et entre-temps, il y a eu Inopiluk, qui est sorti en salle. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Deux automnes, trois hivers pour arriver à Marie les naufragés, en 3 ans?
Effectivement, il y a eu un film, un moyen-métrage un peu inattendu entre Deux automnes et Marie les naufragés, un film qui était assez... qui était une opportunité de partir un petit peu ailleurs. Donc je ne vais pas parler trop de ce film ce soir, mais c'est un moyen-métrage à partir de la venue de deux Inuits en France. Et donc voilà, c'était une espèce de parenthèse entre deux films. Normalement le long-métrage, enfin le film qui aurait dû immédiatement succéder à Deux automnes, trois hivers, c'était celui-ci, quoi, Marie et les naufragés. Parce que là, je vais parler un peu de la genèse de ce film et ce qui l'a motivé. Et je crois qu'une des premières motivations, c'était de partir des personnages, de faire un film qui partirait des personnages. Donc ça paraît un peu absurde et un peu bête de dire ça, mais c'est la première fois que j'écrivais un film en me disant que j'allais d'abord concevoir les personnages et qu'après j'allais concevoir le récit, et c'est eux qui allaient me mener à l'histoire que j'allais réaliser. C'est comme si j'en avais pas fini avec Deux automnes, trois hivers et qu'il fallait continuer un petit peu cette espèce de traitement d'un paysage très contemporain. Donc voilà, donc ça c'était une des premières idées. Après il y avait beaucoup d'autres choses dont on va peut-être parler, qui sont entrées en ligne de compte pour réaliser ce film. Mais voilà, enfin, pour répondre à ta question, entre Deux automnes et ce film-là, j'ai commencé à penser à ce film au moment de la post-production de Deux automnes, quoi. Il y avait une espèce de continuité naturelle, quoi. J'ai écrit le scénario de ce film sur peu de temps et dans une concentration extrême, en me disant le premier mouvement d'écriture de film, ça va être c'est d'arriver au bout, en fait, au bout d'une histoire. Et donc sans renoncer à rien, c'est-à-dire sans renoncer à ces personnages secondaires, à cette multiplicité de récits, cette arborescence qu'on retrouve dans le film. Et donc j'ai écrit un scénario très très long. C'était la première version qui faisait quelque chose comme 250 pages, mais en fait c'est vraiment les personnages qui m'ont guidé. En fait, je me suis vraiment laissé porter par eux, et à partir de là,
Je coupe, je recompose, je reconstruis le scénario. Et cette méthode de travail, ce dispositif m'a permis de... Enfin, je pense que si j'avais été dans une écriture traditionnelle de film, j'aurais renoncé très très vite à beaucoup de choses qui sont dans Marie et Naufragé et dans le côté très baroque du film et très romanesque. Mais en fait, j'avais besoin de ça parce que ce film avait besoin d'aller un peu partout et de quitter le récit principal. Ce côté très baroque du film, il est né de ce principe-là, de cette liberté à la base d'écriture. Qui a fait la BO du film. Quand on s'est rencontrés, moi je ne sais jamais trop comment travailler avec un musicien. Pour moi c'est très important la musique au cinéma. Et je l'ai rencontré et je ne savais pas quelle méthode de travail on allait pouvoir sur laquelle on allait pouvoir s'entendre et fonctionner. Et en fait, très vite on s'est dit, on était tous les deux d'accord sur cette idée-là, qu'il fallait pas qu'il voit d'image, il fallait qu'il compose sa musique sur le scénario, simplement, sur son image, son idée du film à venir. Et en fait, on a travaillé on s'est rencontré quelques mois avant le tournage, parce que j'avais besoin très très tôt de la musique, de la chorégraphie pour pouvoir répéter avec les comédiens. Et pour le reste, pour la musique du film à proprement parler, il allait la composer pendant que moi, je tournais le film. Et en fait, on a travaillé en parallèle sur lui, le fantasme du film qu'il faisait, et moi, les images que je tournais. Et donc, je suis revenu du tournage, on s'est revu chez lui, et je me souviens très bien, on s'est vu à l'étage de sa maison. Et je lui ai montré, la première étape du rendez-vous, c'était que moi, je lui montrais les images du film, en fait. Et donc, il voyait les images du film, et il avait une espèce de longueur d'avance sur moi, c'est-à-dire que lui, il voyait les images du film, moi, j'avais rien entendu de sa musique encore, si ce n'est le morceau d'Oscar. Et donc, il voit les images, et je vois qu'il commence à sourire, qu'il commence à être rassuré, à être, voilà, à se dire, on est sur la même longueur d'onde. Et après, on est descendu, bon, c'est très symbolique, mais on est descendu dans la cave, dans son studio, et là, il m'a fait écouter les premiers thèmes qu'il avait composés, et c'était quasiment la totalité des thèmes, c'était incroyable. Et c'était exactement ce que, je ne veux pas dire ce que j'imaginais, parce que je n'imaginais pas grand-chose, mais c'était absolument proche de l'idée que j'avais de la musique du film et de cette idée d'une musique du film extrêmement présente. J'ai tendance à dire aussi que mes films sont extrêmement montés dès l'écriture, c'est que je sais exactement, enfin pas, peut-être pas exactement, parce que ce serait prétentieux de dire ça, mais je sais comment une séquence se finit et comment la suivante commence. Et j'ai tendance à dire que mes scénarios, ils sont comme des partitions musicales. Et ma méthode de travail, de manière générale, quand je fais des films, c'est-à-dire d'aller vers des gens, et c'est la même chose par rapport aux comédiens, dont je pressens la filiation, en fait. Enfin, en même temps, je dis ça sans aucune prétention, mais c'est absolument facile de savoir que... C'était absolument facile et évident de savoir qu'avec Tellier ou Bertrand Betch, comme avec Pierre Rochefort ou Wim Lapence ou Eric Antona, on allait faire le même film, quoi. Mais voilà, pour arriver à cette adéquation, c'est des... Je ne sais pas à quoi trop c'est dû, mais à des intuitions, en tout cas, ouais.
Donc comment ça s'est fait le choix de Wim Lapence, qui vous avez peut-être reconnu, qui est une actrice qui est de plus en plus, même dans le cinéma un peu mainstream, qui a joué dans Comme un avion, dans La vie très brune, Monsieur Jim récemment. Comment s'est passé ce choix, justement?
Mais pour chaque comédien, c'était une histoire différente. Mais là, pour Wim Lapence, en fait, j'avais envie à la base de prendre quelqu'un de pas forcément un visage assez inconnu. J'avais ce fantasme là de trouver un visage qu'on n'avait pas encore vu au cinéma, et j'ai vu je déteste faire des castings, je dis ça à chaque fois, c'est quelque chose que je trouve rarement productif, parce que certainement que je suis pas très doué pour faire ça et que c'est pas mon idée d'un rapport avec un comédien. Ça s'est pas du tout passé comme ça pour les autres personnages comédiens du film, mais pour Marie, j'ai vu des gens, parce que forcément j'avais cette idée très très utopique de trouver quelqu'un qui n'existait pas, en gros, quoi, une espèce de fantasme comme ça. Et sauf que voilà, j'ai vu une cinquantaine d'actrices qui étaient vraiment pour moi un moment très douloureux, très difficile, et avec des gens forcément très intéressants auxquels je repenserai pour d'autres films, mais c'était pas Marie. Et à un moment, j'ai pensé à Vimala, à qui j'avais pensé il y a longtemps, mais en me disant on verra plus tard. Et voilà, et elle a passé des essais, et c'était elle. C'est très bête, hein, de dire ça, mais c'était évident. En jouant les scènes, c'était celle qui... Voilà, après, moi j'envoie le scénario tout le temps, même si c'est des comédiennes. Si j'en vois beaucoup, je tiens absolument à ce qu'ils lisent le scénario en entier, qu'on puisse avoir un temps pour discuter de la façon dont elles ont vu le personnage. Et après, elles jouent les scènes, on essaie de faire ça de manière la moins... déstabilisante possible. Et voilà, je crois que Vimala a fait tomber une chaise sans faire exprès, elle s'est cognée, elle était très malade. Enfin, il y avait un truc, c'était immédiatement, touchant, en fait, voilà, comme quoi c'était le personnage. Moi, je suis un grand admirateur de danse contemporaine, mais un grand admirateur dans le sens où je c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer avec des mots, mais que je ressens de manière complètement charnelle et sensorielle, en fait. Et je me dis que le cinéma, il peut traduire ça, et pour essayer de le traduire, il fallait vraiment créer une chorégraphie, et donc partir du corps des comédiens, donc du corps d'Éric Antona, de Wim Lapence, de Pierre Rochefort, de Damien Chapelle, de partir d'eux et de finir le film par une scène où les mots étaient absolument impropres pour raconter l'état des personnages. Moi, je déteste travailler avec les comédiens autour d'une table pour préparer un film. Je trouve que ça n'a aucun sens, parce que parce que comme j'aime pas penser aux comédiens quand j'écris un scénario, parce que je trouve que c'est un frein à l'imaginaire, j'aime pas du tout répondre à des questions. Alors pourquoi il va faire ça, quelle est la psychologie du personnage, le terme horrible. Et je trouve que c'est si on arrive sur un plateau en ayant à peu près trop tout résolu, il ne se passe plus rien sur le tournage. Sauf que là, en fait, donc je déteste faire des réunions, on discute beaucoup, mais on discute pas des personnages. Moi, j'apprends à connaître qui est Pierre Rochefort, Vima Lapence, mais je discute pas avec eux de qui est Siméon, qui est Marie. Mais par contre, ce qui était marrant dans cette expérience-là, c'est qu'on était obligé de se voir pendant 2 mois de préparation du film, mais on se voyait pour ne jamais parler, mais simplement travailler sur les corps, quoi. Et ça, c'était incroyable parce que du coup, on a acquis comme ça une espèce d'intimité qui était au-delà des mots et qui était parfaite pour commencer ce film.
Il y a une sorte de cliché qui traîne dans le cinéma français. On dit que c'est un cinéma parisien, c'est un cinéma, parce que souvent c'est un cinéma qui passe à Paris avec des jeunes de 30 ans qui ont des préoccupations qui ne sont pas financières, qui sont plus spirituelles, ce qui est le cas dans... Voilà. Et là, ce que j'aime bien dans Deux Autres Hivers et dans Marie le naufragé, c'est que ça commence à Paris. À un moment, les choses essentielles, les choses importantes se passent ailleurs. C'est quand tout le monde décide d'y aller, donc sur l'île de Groix. Et là, ça devient... Enfin, là, il n'y a plus d'appartements, il n'y a plus de cloisons. Là, c'est tout le monde fait la fête ensemble, tout le monde... Enfin, voilà. Et bon, on ne va pas... Inopiluc, bien sûr, c'est un désir aussi d'ailleurs d'aller filmer là-bas. Enfin, c'est le désir de sortir de Paris, justement. Est-ce que c'est une volonté de ne pas être catalogué dans un certain cinéma un peu, voilà, ou est-ce que c'est une...
Ouais. Quand j'écris, je pense pas du tout. Je me dis pas, je vais faire un film qui va où les personnages vont quitter Paris. Et sauf que très vite, j'éprouve ce besoin-là, en fait. Mais ça, je pense que c'est sans parler de choses personnelles. C'est voilà, je suis pas parisien. J'ai toujours considéré Paris comme une ville qu'on quittait, qu'on retrouvait, quoi, en fait. Et je sais pas pourquoi. En fait, il y a effectivement cette idée que les choses ont besoin de voilà, il y a toujours besoin d'un ailleurs pour les révéler et qu'elles prennent toute leur intensité. Et là, c'est sûr qu'il y avait cette idée aussi très forte de l'île comme une espèce de lieu avec une frontière naturelle où les gens étaient forcément isolés et où quelque chose de l'ordre du magique pouvait se passer, en fait. Il y a un réalisateur que j'aime beaucoup qui a réussi à faire de Paris un lieu du magique et de l'aventure, c'est Rivette, voilà, qui arrivait à faire que ces personnages se servaient de Paris comme un terrain de jeu. Mais ça, j'ai toujours été très admiratif de ça, mais je pense que je suis pas assez parisien pour pouvoir... Enfin, c'est une ville dans laquelle, par exemple, je ne pouvais pas tourner jusqu'à 2 automnes, en gros, quoi. J'ai toujours un problème avec cette accusation de film bobo ou de film parisien. Enfin, certes, il y en a, hein, moi, je souscris totalement à ce que tu dis. Mais en fait, ça veut... Enfin, pour moi, mes personnages, c'est le contraire de la définition du bobo. Et alors que je peux entendre ça comme critique. À partir du moment où on a 30 ans et on vit à Paris, il y a cette idée un peu convenue qu'on est forcément bobo. Et bobo, c'est pas du tout ça. Bobo, c'est des gens qui vivent très bien. Moi, mes personnages, ils vivent pas très bien, en fait. Ils sont obligés de vivre ensemble, en colocation.
C'est de la débrouille, en fait.
Et puis, en plus, ils s'en plaignent pas. Et ils ont surtout pas ce fantasme de l'argent et de la réussite. J'allais dire, je demande à mes personnages à chaque fois de n'avoir aucun cynisme sur cette question-là, de l'argent et de la réussite, parce que c'est quelque chose que je déteste, en fait, cette idée-là, ce concept-là. Et c'est le minimum que je leur demande à mes personnages.
Et la suite, du coup, surtout que la suite, on l'a un peu entreaperçue, peut-être avec Inopiluc. Enfin, qu'est-ce qui va se passer par la suite, une fois que Marie est naufragée? Parce que la suite immédiate, c'est Marie est naufragée qui sort dans une semaine et demie, au Lobis, notamment, ouais, à partir du 13 avril. Mais voilà, le film va vivre sa vie. Parlez-en autour de vous. Et la suite, alors, du coup, une fois que Marie est naufragée, l'aventure sera terminée, qu'est-ce qui va se passer?
Ben, en fait, j'ai tourné un film... En fait, j'ai enchaîné 2 tournages, ce qui est assez rare et voilà, qui m'arrivera certainement plus, parce que c'est quelque chose qui est... enfin une expérience que j'ai adoré vivre, mais qui est aussi une expérience très particulière. Et le deuxième film, donc j'ai enchaîné le tournage de Marie entre Paris et la Bretagne avec un film que j'ai tourné au Groenland qui s'appelle Le Voyage au Groenland et qui était une espèce de continuité d'un long métrage qui s'appelait Inupiluk que peut-être certains d'entre vous ont vu. Et Inupiluk, mais j'en ai peut-être parlé tout à l'heure, hein, je crois que je me répète aussi, voilà, raconter la venue d'Inuit en France. Et là, on est parti avec les comédiens français qui participaient à ce projet dans le village dont venaient Ouli et Adam, les deux personnages d'Inupiluk, pour un long métrage cette fois-ci, une fiction. Et ça a été la vie pendant un mois de ces deux personnages dans ce village qui s'appelle Kullershua, qui est un des villages les plus excentrés du Groenland. Et voilà, on a tourné ça, on y était il y a un an exactement. Voilà, donc le film vient juste d'être fini, la post-production vient d'être finie, donc c'est un film qui devrait sortir au mois de décembre.
Bon, en tout cas, merci beaucoup.
Merci Romain,
d'être
merci.
Parmi nous.
Merci
c'était vraiment un grand honneur.
C'est un grand plaisir.
Là, on est à peu près à la moitié des promotions en avant-première.
Ouais.
Jusqu'ici, tout s'est bien passé. Il n'y a jamais eu de huée, de vide.
Non. Pour l'instant, je touche du bois. Il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu. Enfin, le film est très bien reçu et c'est un film, je pense, qui fait confiance à la capacité du spectateur à partir à l'aventure, voilà, et à sortir des sentiers battus. Ça c'est très important pour moi. Et je pense que le film est une invitation à prendre des chemins de traverse.
Il y a des questions de spectateurs ou des remarques qui vous ont marqué ou fait voir la chose autrement?
Ouais, il y en a toujours. Enfin, il y en avait ce soir. Il y avait des réflexions. Enfin, moi, je dis souvent aussi que j'adore présenter mes films, surtout quand le film n'a pas eu encore de retour de presse et où il est assez vierge, de rencontrer le public, parce que j'apprends beaucoup de la façon dont les gens réagissent par rapport au film que je leur propose. Ça me fait reprendre vraiment espoir aussi, parce qu'on est très conditionné quand on fait du cinéma, de cette idée de faire attention, de ne pas, encore une fois, sortir trop des sentiers battus et aller vers des histoires avec un début, une fin, un dénouement, quelque chose de très classique. Et moi, j'essaie de faire des films assez différents qui sortent de ce carcan-là, et je suis toujours très heureux quand les spectateurs sont absolument réceptifs à ça et n'ont aucun problème pour jouer le jeu. Parce qu'en fait, il y a une part très ludique aussi dans mes films. Moi, je leur propose un jeu, en fait. Ce film, c'est entrer dans un jeu et dans un rapport de confidence avec mes personnages. Et donc, les témoignages des gens, les premières questions, ou les premiers, c'est pas forcément des questions, les premières réactions devant le film sont très enthousiasmantes et me permettent de croire à la possibilité de continuer à faire des films différents de la production traditionnelle, en tout cas. Voilà.
Très bien, et pour finir, du coup, Voyage au Groenland qui sort en décembre,
ouais.
C'est ça,
ouais.
Et après, déjà des projets
je suis en train de... Oui, après j'aime bien avoir des projets, j'aime bien me reposer aussi, mais j'aime bien avoir des... En tout cas, pour pouvoir, en me reposant, imaginer ce que sera mon prochain film. Donc voilà, j'ai un début d'idée pour un long métrage et j'aimerais beaucoup aussi travailler sur un projet de série. Donc je réfléchis à ça aussi actuellement, des mini-séries.
Merci beaucoup.
Merci à vous.